Alors, vous vous souvenez que dans la série que j'ai proposée, nous parlons de notre profession de foi. J'ai beaucoup aimé quelque chose que le prédicateur de la fois passée, le dimanche passé, avait évoqué. Vous vous souvenez, c'était William Clayton qui était venu pour prêcher. Il est parti d'un texte de Jude. Et il a voulu parler de ces trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Il a voulu en parler et il a voulu le présenter d'une certaine façon, mais à la lumière du texte de Jude et non pas de 1 Corinthiens 13 que nous connaissons. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, mais j'aimerais juste pointer du doigt quelque chose qui m'avait vraiment frappé. Il a dit... Quand on parle de la foi, il s'agit de deux choses, deux facettes dans la foi. Il y a l'aspect de la compréhension de la foi. C'est ce qu'il a appelé l'aspect doctrinal. Et l'aspect du vécu de la foi. Tout l'aspect de l'expérience, des épreuves, de l'épreuve dans le sens de je mets à l'épreuve ma foi. Chaque jour au quotidien, et j'expérimente la main de Dieu, la providence de Dieu, l'intervention, le miracle, etc. de Dieu. Il y a deux dimensions dans la foi. Notre foi, c'est pas simplement le fait de croire à des choses qui vont se passer, qui vont avoir lieu, mais c'est aussi un ensemble de choses qui sont comme des convictions personnelles. C'est des choses auxquelles on croit fortement. Des choses qui font que c'est ça notre façon de vivre. Nous croyons en telle valeur, nous croyons en telle chose, et c'est ça notre monde, notre ouverture au monde. Et la profession des foi, c'est cela. C'est un corps de doctrine, un corps de connaissance, un ensemble de choses auxquelles on est attaché, auxquelles on croit profondément. Ça ne veut pas dire que nous sommes fermés aux autres façons de croire. Mais ça veut dire que nous, quand nous plongeons nos yeux dans la Bible, quand nous regardons dans la Bible, c'est ça que nous voyons. C'est ce contenu-là que nous voyons. C'est ce bagage-là que nous voyons. Nous voyons ces différents bagages qui sont énumérés sous forme des différents articles ici de notre confession de foi. La foi, c'est un ensemble donc des doctrines, un ensemble des connaissances, des choses que nous connaissons et qui formatent, qui structurent notre vie chrétienne, notre marche avec Dieu. C'est comme ça que on peut avoir des différences entre deux façons de croire. Et c'est comme ça qu'on peut identifier, à la lumière de ce que nous lisons dans la parole de Dieu, on peut identifier une tendance qui est plutôt sectaire avec une tendance qui est plutôt tout à fait conventionnelle. Je tenais à le dire avant de commencer parce que je trouve que c'est important que nous puissions aussi savoir que nous avons à travailler notre vie de foi de cette façon-là aussi. Notre foi doit être une mise à l'épreuve des promesses de Dieu dans la vie quotidienne. Seigneur, tu as dit ça. Tu as dit que tu guériras. Seigneur, guéris. Seigneur, tu as dit que tu pourvoiras. Seigneur, pourvois. Tu as dit, Seigneur, que je ferai ceci avec toi. Seigneur, fais-le. Ça, c'est la mise à l'épreuve des promesses de Dieu. Des promesses que Dieu nous a faites. Des engagements de Dieu. De ce que Dieu dit qu'il fait pour nous. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire des choses qui sont en l'air. C'est Dieu lui-même qui invite son peuple à le faire. Malachie chapitre 3, lorsqu'il s'agit de dîmes, il dit « Mettez-moi en sorte à l'épreuve !» Donc Dieu veut ça. Il veut qu'on puisse implémenter, expérimenter ses promesses dans nos réalités. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, Dieu veut aussi que notre richesse, notre contenu se fonde sur ça. Vous voyez l'attitude des gens de Béré dans la Bible. C'est une ville que l'apôtre Paul a visité, tout ce que l'apôtre Paul prêchait, eux regardaient si c'était bien écrit dans la Bible. Ils vérifiaient pour voir si tout ce que l'apôtre Paul racontait était conforme. Ça, c'est l'attitude des gens qui veulent fonder un contenu de foi basé sur la Bible. C'est ce que Dieu veut. Troisième article aujourd'hui, nous avons déjà parlé du premier article qui parle de Dieu. On a insisté surtout sur le fait que nous croyons que notre Dieu est créateur. Nous croyons qu'il est puissant. Nous croyons qu'il est saint, qu'il est juste. Nous pensons aussi que notre Dieu est un Dieu qui est trinitaire. Il existe éternellement en trois personnes de même nature, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est la particularité de notre Dieu, à savoir un Dieu trinitaire. Ce n'est pas Allah, ce n'est pas le Yahweh du judaïsme, c'est notre Dieu, il est unique, il est le seul Dieu qui est véritablement comme il est, c'est-à-dire le Dieu trinitaire. Nous avons aussi parlé de notre deuxième article qui est nous croyons en Jésus-Christ, à la fois comme la parole incarnée, mais aussi comme la source de notre salut, celui qui vient rendre possible le salut entre la relation entre Dieu et les hommes, celui qui permet la justification. Pour les autres, publicité non commerciale, nous avons un site internet, nous avons les messages des prédications qui y sont. Si les sujets vous intéressent, allez toujours écouter là-bas. C'est bien, hein? Richard, je fais une publicité non commerciale, c'est bien, hein? Très très bien, voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième article. Nous croyons en l'Esprit Saint, à sa personnalité et à son œuvre de régénération et de sanctification. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour le temps que nous passons. Et c'est vrai, depuis le commencement, nous avons souligné la joie de te servir, la joie de vivre notre salut, de savoir que nous sommes sauvés, que rien ne peut nous arriver, que rien ne peut nous séparer de toi, que ton amour ne changera jamais à notre égard, que tu seras toujours attentionné à notre égard, Seigneur, que tu pleureras avec nous, tu auras mal avec nous, mais tu rigoleras avec nous, tu te réjouiras avec nous. Nous savons que tu es là, nous n'avons pas un contrat avec toi pour un petit temps, mais un contrat pour toujours. Seigneur notre Dieu, tout cela, ces choses sont possibles aussi par l'œuvre du Saint-Esprit. Merci Seigneur de nous éclairer ce matin à travers ta parole et de nous aider à grandir aussi dans cette relation avec l'Esprit Saint. Gloire, honneur et puissance à toi. Conduis-nous dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Alors, le Saint-Esprit. Qui est notre Dieu? Nous avons dit que c'est un Dieu trinitaire. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons aborder donc le Saint-Esprit et je voulais vous dire que c'est un sujet qui est vraiment, vraiment énorme et vaste. Je vais essayer dans les deux heures qui suivent d'expliquer cela, et c'est beaucoup de choses. Mais je voudrais vraiment m'en tenir strictement à ce en quoi nous, évangéliques de l'Association des Églises Protestantes Évangéliques de Belgique, nous croyons. Je voudrais vraiment m'en tenir à ça. Bien sûr, m'en tenir pas à la doctrine AEPEB, comme je viens de dire, mais à la doctrine biblique de l'AEPEB. Parce que l'autorité, c'est pas l'AEPEB, mais c'est la Bible. Autrement dit, si l'AEPEB a des points qui ne sont pas très clairs, c'est encore auprès de la Bible qu'il faut aller chercher pour trouver des bonnes réponses. Donc, ça veut dire que je vais pas aborder ici toute la dimension, par exemple, pentecôtiste, toute la dimension, par exemple, charismatique ou d'autres courants. Je ne vais pas mélanger ici. Je vais juste garder un seul créneau pour pouvoir en parler. De toute façon, c'est un créneau biblique, hein, donc c'est pas du tout quelque chose qui va s'inventer, mais c'est quelque chose qui est dans la Bible. Donc nous restons ancrés dans la parole de Dieu. Quelques lectures. Quelques lectures sont toutefois données encore, c'est juste pour donner une base biblique à ce que nous allons dire. Jean chapitre 14, versets 15 à 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est Jésus qui le dit. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il précise de quel consolateur s'agit-il, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui dit, il répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Deuxième texte. Nous aurons beaucoup de textes, hein. Pauvre Jaco. Mais nous aurons beaucoup de textes aujourd'hui pour un peu, il y a énormément de choses sur le Saint-Esprit dans la Bible, bien sûr. Jean chapitre 16. Nous allons lire, ah, pardon, 15, hein. Tu m'as mis 15 là. Très bien. Mets-moi 15 d'abord. Jean chapitre 15, le verset 26. Quand sera venu le Consolateur? Que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Voyez, il rendra témoignage. Il s'agit plus seulement d'enseigner, mais ici de rendre témoignage. Alors maintenant, Jean chapitre 16. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Vous avez remarqué? Il rendra témoignage, il enseignera, maintenant il conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Regardez encore verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je vous dis qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ça va? Vous avez des idées déjà sur qui est le Saint-Esprit? On continue alors, hein. Actes chapitre 1, verset 8. Et moi, oh, c'est pas ça. Je vous disais, il y a quelque chose qui, voilà. Heureusement que je connais quand même un peu bien mes textes, hein. Mais, Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Tu peux te reposer un petit moment. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Vous avez vu, il est présenté comme un autre consolateur. Il est consolateur au même niveau que Jésus-Christ. C'est quoi un consolateur? Le mot biblique de consolateur vient d'un verbe parakaleo en grec qui veut dire celui qui soutient, celui qui conseille, celui qui prend fait et cause pour moi. C'est celui qui vient me défendre, celui qui prend les coups pour moi, celui qui fait en sorte que moi, je sois bien sous la protection parce que lui veille à ce que les choses qui peuvent m'arriver ne m'arrivent pas. Le conseiller, le paraclet, le défenseur, on appelle le consolateur. Vous savez, en français, consoler quelqu'un, ça veut dire non seulement partager sa douleur, sa souffrance, mais aussi prendre part à sa souffrance, comme quelqu'un qui vient souffrir avec la personne. C'est pas simplement, quand on va consoler quelqu'un, c'est pas simplement dire, courage. L'idée, c'est, ça va plus loin, c'est vraiment se mettre dans la peau de cette personne qui souffre pour vivre sa souffrance aussi avec. Et ainsi, l'aider, en quelque sorte, le porter dans cette souffrance pour traverser cette période difficile jusqu'à ce qu'il retombe dans une période où il peut supporter la vie. Un autre consolateur. C'est ça, Jean chapitre 14, verset 16. Un autre consolateur qui vient établir son temple éternel dans le croyant. Vous avez vu, il dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, dans quel but? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il vient installer son temple éternel. Cet esprit ne peut pas être reçu par le monde, par les non-croyants. Pourquoi? Parce qu'il faut être né de nouveau. Jean chapitre 14, le verset 17, c'est ça que j'ai dit? Dans ma liste de petits points, c'est pas grave. Allez, hop, on continue. Il a beaucoup de travail, hein, donc le pauvre. Voilà. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, pourquoi? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit à cause du fait qu'ils ne sont pas, que les gens ne sont pas saints, ne sont pas mis à part, n'ont pas le cœur, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Son rôle donc est multiple pour le croyant. Le Saint-Esprit a un rôle très très varié dans la vie du croyant. Le premier de ses rôles, c'est la régénération. Vous savez, c'est quoi la régénération? C'est le fait de naître de nouveau, le fait de devenir chrétien. C'est le Saint-Esprit qui opère cela. C'est le Saint-Esprit qui rend possible le fait que nous devenons enfants de Dieu, que nous devenons des croyants. Que dit Jésus à Nicodème? C'est pas un texte que j'ai pris, mais que dit Jésus à Nicodème? Nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut voir le royaume des cieux. De quel esprit s'agit-il? Mais c'est du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître. C'est lui qui rend possible notre vie chrétienne. C'est lui qui rend possible notre identité chrétienne. C'est lui qui nous fait naître littéralement de nouveau, qui nous fait devenir chrétiens. C'est lui qui opère la régénération. C'est lui qui le fait, nous avons vu le texte, en nous convaincant. N'est-ce pas? Il est dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre de la justice, du péché et du jugement. C'est le Saint-Esprit qui va opérer cela. C'est lui qui va nous faire prendre conscience de notre état de péché. D'où vient que deux hommes écoutent le même message? L'un est complètement contrit, touché, et se dit non, j'arrête. Maintenant, je donne ma vie à Christ. D'où vient que l'autre, oh, c'est pas vraiment des oignons, ça m'intéresse pas, laissez-moi tranquille avec ça. D'où vient cela? C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui trouve une porte ouverte. Bien sûr, c'est pas le diable, hein. Le diable, lui, il demande pas la vie des gens. Lui, il fonce, il fait les dégâts dans les vies des gens. Dans le Saint-Esprit, c'est plutôt un gentleman. Il va te ouvrir les yeux sur l'importance d'être sauvé. Il va te rendre cela possible. Il va te rendre capable de le comprendre. Mais il ne va pas te forcer la main. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de la justice, du péché et du jugement. Tu n'arrives plus à ouvrir? Très très bien. Mais on revoit juste le chapitre 16, là, hein, versets 8 et 9, là. Voilà. Et quand, verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ok? Alors, comme ça, à partir de cela, son œuvre commence. On est né de nouveau, on devient enfant de Dieu. C'est lui aussi le Saint-Esprit qui donne au racheté son identité d'enfant de Dieu et membre de la famille de Dieu. Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'identité d'enfant de Dieu, qui nous donne l'adoption, qui nous fait vibrer au-dedans de nous que nous appartenons à Dieu, que dans nos prières on peut dire « Seigneur, je suis ton enfant, non ? Pourquoi tu ne me réponds pas ?» Que nous pouvons vivre notre vie en entrant dans cette salle, se dire « Je suis un enfant de Dieu, je suis content, je suis dans la maison de mon Père. » C'est le Saint-Esprit qui opère ce travail extraordinaire. C'est lui qui fait de nous des enfants de Dieu, qui nous donne cette identité. Il y a l'autre texte que je n'ai pas donné ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, qui dit « Nous sommes plongés dans la réalité de Dieu, dans la famille de Dieu. » D'ailleurs, c'est un mot polémique avec lequel on discute beaucoup entre pentecôtistes et évangéliques. C'est le mot « baptisé ». Nous sommes plongés. Le Saint-Esprit nous baptise, en quelque sorte, de la vie de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc, il opère notre régénération, notre nouvelle naissance. Il nous permet d'avoir l'identité d'enfant de Dieu, d'avoir une relation avec Dieu où nous pouvons crier à Dieu comme étant notre Père, Abba, Père. Il permet que nous puissions nous sentir membres de la famille de Dieu, que nous soyons à l'aise parmi nos frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit aussi qui façonne notre caractère spirituel. C'est lui qui fait que nous changeons véritablement. Vous connaissez Nicky Cruz? C'était à l'époque avec la croix et le poignard. Je ne sais pas si vous connaissez encore cette histoire, avec le film et tout ça. C'était un bandit, un jeune qui était quand même assez violent, qui appartenait à un des gangs. J'aime bien quand on lit son livre personnel qui s'appelle « Du ghetto à la vie ». C'est un livre qui nous a même inspiré une pièce de théâtre qu'on a jouée quand j'étais encore aux Humanités. Eh bien, dans son livre, il raconte cet épisode où tout d'un coup, il est assailli par une bande d'une autre gang. Il est habitué à aller voir l'attaquer. Et là, il commence à le pousser, à le bousculer, à le provoquer. Mais il est devenu chrétien. Tout d'un coup, il y a la colère qui lui monte, il casse une antenne d'une voiture pour se défendre. Tout d'un coup, il s'arrête net. Il s'arrête net. Il dit, mais ça ne m'appartient plus, ça. Ce n'est plus ma vie. Je ne peux plus faire ça. C'est pas ma vie. Et donc, il renonce et il s'en va. Et lui-même était surpris par ça, parce qu'il disait, mais j'ai eu là une conscience que ma réalité de vie avait changé, que je n'étais plus le même, que quelque chose avait bougé en moi. Qui rend possible ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui façonne notre caractère spirituel. Galates chapitre 5, le verset 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Regardez, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Pourquoi sont-ils opposés? Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Chrétiens, nous avons souvent le prétexte que nos faiblesses sont excusables, que nous sommes chrétiens, mais Dieu comprend que nous puissions faire des choses. Mais l'esprit et la chair sont vraiment dans l'opposition. Ils sont opposés pour que nous ne fassions pas ce que nous voudrons. Soit, et ça c'est le verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est peut-être le moment de les redire, vous les connaissez, mais c'est quand même l'occasion de le dire. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit façonne nos caractères. C'est lui qui fait que nous devenons plus patients, plus bons, maîtres de nous, capables de douceur, capables de bienveillance, capables de rechercher la paix, de vivre en paix, d'être en paix, capables d'aimer, capables d'être dans la joie. Ce sont des caractères propres à l'Esprit de Dieu dont nous sommes simplement des porteurs. Et le Saint-Esprit vient en nous pour rendre cela possible. Il façonne nos caractères. On peut ajouter à ceci qu'il nous rend capables de servir Dieu, qu'il nous rend capables de connaître Dieu, il nous rend capables de pouvoir comprendre sa parole et comprendre notre, et saisir dans la parole de Dieu notre nourriture quotidienne. Le Saint-Esprit rend cela possible. Acte chapitre 1, verset 8 que nous avons lu, nous voyons que nous recevons une puissance, le Saint-Esprit qui survient sur nous, et nous serons des témoins. Le Saint-Esprit nous rend capables d'être témoins. Il nous donne la puissance pour pouvoir être témoins, pour pouvoir parler de lui. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie nos vies, qui nous rend saints, qui attire notre attention sur la nécessité de vivre une vie de sainteté. C'est lui qui nous donne le dégoût des choses de ce monde, qui nous fait voir certaines choses de ce monde comme horribles parce que Dieu les voit horribles. Mieux encore, c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'amour. Romains chapitre 5, verset 5. J'aime beaucoup ce texte. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous rend capables d'aimer comme Dieu. L'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour qui ne regarde pas à la taille, à l'intérêt, à l'argent, au calcul, l'amour qui tout simplement aime par-delà les qualités et les défauts. Je suis frappé. Regardez Jésus, il a 12 disciples. Il y en a un là, un vrai, j'évite de dire le mot parce que je suis gentil, mais c'est un bandit. Mais jusqu'au bout, Jésus va l'aimer et va lui donner la même possibilité que les autres. Un amour qui ne regarde pas. Un humain dirait par précaution, celui-là c'est un voleur, je ne le fréquente pas. Et l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Et Dieu nous rend capables. Il met l'amour, son amour dans nos cœurs. Il nous rend capables d'aimer. Voyez-vous, mes amis, lorsque nous commençons à comprendre certaines choses au niveau spirituel, il y a des choses que nous ne pouvons plus nous excuser. Je n'aime pas telle personne. Je déteste l'autre personne. Mais attends, tu es chrétien? L'amour de Dieu répond dans ton cœur. Mais affirme-le! Ne dis pas, je n'aime pas cette personne. Dis, si l'amour de Dieu répond dans mon cœur, alors je peux aimer cette personne-là. Même si c'est une personne, mon Dieu, impossible à aimer. Je peux l'aimer parce que l'amour de Dieu est dans mon cœur. C'est à moi de l'implémenter, c'est à moi de mettre ça en œuvre. Et si je suis empêché, c'est à moi de prier jusqu'à ce que cela se fasse. Parfois, ce qui nous bloque, c'est que nous regardons beaucoup à nous-mêmes. Nous sommes un peu comme Pierre. Vous vous souvenez, Pierre qui marche sur les eaux. Hein? Si tu es le Fils de Dieu, si tu veux le prouver, ordonne que je marche sur les eaux. Jésus dit, très bien, viens Pierre. Qu'est-ce qui se passe avec notre ami Pierre? Cela se passe avec nous tous, il ne faut pas se moquer de lui. Hein? Eh bien, il marche sur les eaux, et puis son intelligence humaine le récupère en se disant, vous avez déjà vu, vous, quelqu'un qui marche sur les eaux, vous? Les eaux, ça fait quand même tomber quelqu'un. Hein? Hein? Comment voulez-vous marcher sur les eaux? Et notre ami Pierre, il regarde trop à ça. Il s'en inquiète. Je suis sur les eaux. Maman, j'ai peur. Je vais me noyer. Et qu'est-ce qui se passe? Boum, il tombe. Et Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et souvent, notre vie, c'est ça. Nous avons le Saint-Esprit, mais nous vivons en regardant à nous-mêmes, en regardant notre nombril, en regardant la couleur de nos chaussures, en regardant comme nous sommes beaux en nous. Et quelque part, l'Esprit est là, mais il ne peut pas travailler avec nous, parce que simplement, nous sommes trop tournés vers nous-mêmes, nous sommes hommes de peu de foi. Le Saint-Esprit nous rend capables de servir le Seigneur à travers des dons spirituels. Vous voyez, ça c'est le gros débat avec lequel nous avons parfois avec nos amis les charismatiques, les pentecôtistes, cette question des dons spirituels. Mais c'est des dons qui existent, c'est dans la Bible. Si c'est dans la Bible, donc c'est vrai. Alors, après tous ces éléments que je viens de présenter, est-ce qu'on peut dire que le Saint-Esprit joue un rôle important dans la vie d'un chrétien? Répondez-moi, hein. Est-ce qu'on peut dire qu'il joue un rôle important ou pas du tout? Est-ce qu'il joue un rôle important? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que le Saint-Esprit est-il indispensable pour le chrétien? Mais oui, à 100%. Alors, l'autre question à dessous, puisque moi j'aime bien poser des questions à dessous. Hein. Pourquoi est-ce que nos vies sont si pauvres avec le Saint-Esprit? Puisque d'après tout ce que nous venons de voir, le Saint-Esprit nous est présenté comme le partenaire incontournable du croyant, du chrétien. Il est au commencement de sa vie spirituelle, à sa naissance. C'est lui qui rend ça possible, c'est lui qui forge son identité, c'est lui qui l'intègre dans la famille de Dieu, c'est lui qui lui donne une relation personnalisée avec Dieu, duquel il peut dire « c'est mon Père, Abba ». C'est lui, ensuite, qui le fait grandir à travers le formatage de son caractère. Il rend possible ce changement de caractère profond qui fait que c'est une personne qui était comme ça, mais qui devient comme ça. C'est encore le Saint-Esprit qui œuvre dans cette personne-là pour sa sanctification. C'est le Saint-Esprit qui œuvre pour le rendre capable de servir, qui met en lui le zèle, l'amour, la passion, le feu pour Dieu. C'est toujours le Saint-Esprit qui fait tout ça. Et plus que ça encore. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est le permanent de Dieu en nous. Vous savez, c'est quoi un permanent? Celui qui fait la permanence, là. Celui qui est tout le temps là. C'est la permanence de Dieu en nous. Vous savez ça? Plus que ça encore. Nous sommes l'habitation de l'Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que donc vous ne vous appartenez pas à vous-même. Notre corps est l'habitation du Saint-Esprit. C'est le permanent de Dieu. Il est en permanence en nous. Vous avez vu dans les textes, on avait dit, il sera en vous. Il est au-dedans de nous. Il vit en nous. Alors juste, ça c'est ce qui concerne le contenu de la foi. Je voudrais peut-être juste terminer avec cette petite question. Nous croyons en l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, c'est la troisième personne du Seigneur. Il est celui qui est le plus proche de nous, celui qui travaille avec nous. Avez-vous été frappé par le fait que finalement, et on ne voit pas beaucoup d'endroits où on parle d'adorer le Saint-Esprit. On ne voit pas la position du Saint-Esprit comme celle de Jésus ou de Dieu. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Il est Dieu, il est digne d'être adoré. Mais sa première fonction, sa fonction principale, ce n'est pas d'abord de servir les croyants, c'est d'abord de servir Dieu. Il est donc la cheville ouvrière, l'interface avec les hommes. C'est pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup. Parce que lui, il est derrière, il est dans les machines, il est à la cuisine, aux cuisines en train de travailler et de servir le repas, de donner. Et on ne le voit pas, lui, parce qu'il travaille. Quel exemple extraordinaire dans cette personnalité. Quelle richesse. Il est là pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour rendre témoignage à Jésus, de Jésus. Il est là pour continuer le travail de Jésus. Il est là pour soutenir le travail de Jésus dans l'Église. Il est là pour soutenir le travail de Jésus dans le monde. Il est là pour soutenir le travail de Jésus dans nos vies. Il peut paraître modeste, et pourtant le Saint-Esprit, il est puissant. Il est puissant. J'imagine sa puissance comme celle de l'air. Mes amis, l'air, eh ben, c'est tout petit, c'est insignifiant l'air, n'est-ce pas? L'air, c'est, tu peux faire comme ça, tu peux le chasser. Il est tellement fluide que tu peux le toucher comme tu veux l'air. D'ailleurs, c'est bizarre parce que le mot esprit, ça veut dire air. Ça veut dire de l'air. L'air, c'est rien, vous savez. Et pourtant, l'air peut déraciner des arbres. L'air peut détruire les maisons. L'air peut déplacer les avions. Il y a des vents qu'on appelle des sirocos, des vents à 500 km à l'heure. On interdit les petits avions de passer par là. Hein. Parce que sinon, ils disparaissent. Hein. L'air, c'est petit et pourtant, c'est puissant. C'est invisible et pourtant présent. Ça a l'air banal. On respire l'air tous les jours. On ne sait même plus qu'on respire l'air d'ailleurs, sauf quand on tombe malade, sauf quand on n'arrive plus à respirer. Là, on se rend compte que l'air est important. De l'air, j'étouffe. C'est cela le Saint-Esprit. Discret, mais tellement puissant, tellement efficace. Ce matin, je vais juste poser une question, peut-être ouvrir trois perspectives, trois idées. Ma question, c'est comment permettre une meilleure collaboration avec le Saint-Esprit en nous? Que faire pour que le Saint-Esprit dans nos vies puisse être vraiment véritablement, que son travail soit facilité dans nos vies? Comment coopérer au travail du Saint-Esprit dans nos vies? Je propose trois pistes. Première piste, il faut que nous apprenions l'humilité. L'humilité est un moyen par lequel nous pouvons coopérer facilement avec le Saint-Esprit. Vous savez c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est cette volonté de s'abaisser, de ne pas se considérer comme la source des solutions aux problèmes. Dans nos vies, nous continuons à considérer que c'est nous-mêmes qui devons résoudre nos problèmes. Vous connaissez ces gens qui refusent le soutien de quelqu'un pour l'aider à marcher parce que laissez-moi tranquille, je vais marcher moi-même tout seul. Mais il souffre avec sa canne, mais il veut quand même qu'on le laisse, qu'on le fouche la paix. Vous voyez? L'humilité, c'est apprendre à demander de l'aide. C'est apprendre à dire, je suis rien, moi. Je suis petit, j'ai besoin de toi, Seigneur. L'humilité, c'est faire tout pour que Dieu ait la liberté dans ma vie pour corriger, travailler, transformer, changer. Vous comprenez ça? C'est ça l'humilité. Être humble, c'est coopérer à ce que Dieu nous demande de faire. C'est laisser le Saint-Esprit transformer nos vies. Et pour ça, la première source de résistance, c'est notre orgueil. C'est notre nombrilisme. C'est notre tendance à être toujours tourné vers nous. Toujours nous, toujours nous, toujours moi. Mais dire Dieu, le Seigneur, je suis béni dans ma vie, gloire à Dieu. J'ai des choses qui se passent très bien dans ma vie, gloire à Dieu. J'arrive à réussir tout ce que j'ai fait, gloire à Dieu. C'est Dieu, pas moi. L'humilité, c'est ne pas regarder les autres comme supérieurs, comme inférieurs. L'humilité, c'est se prendre sa place de créature. J'ai besoin de toi, Seigneur, à tout moment. C'est être prêt à donner sa vie à Christ dans tous les domaines de ma vie. Être prêt à lui céder tout, être prêt à lui donner tout ce qu'il me demande. L'humilité, c'est quelque chose qui nous aidera à laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Parce que le Saint-Esprit, il ne blague pas. Si je le laisse travailler dans mon cœur, il me montrera mes défauts. Il se gêne pas, lui, hein. Il va pas faire le compatissant en disant, tu dis des gros mots tout le temps, mais c'est pas grave, je te pardonne. Non. Il dira, tu dis des gros mots, il faut changer ça. J'ai des moyens pour te faire changer ça. J'ai des médicaments s'il faut que tu puisses prendre pour que, non, c'est pour rire. J'ai des moyens spirituellement pour que ça change. Le Saint-Esprit sera celui qui va nous montrer le chemin pour nous guider vers ce qu'il faut. Il nous remplira de sagesse dans les différents choix de nos vies. Mais pour cela, il faut de l'humilité. Dès ce soir, dès aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous apprendre à être humbles et à laisser le Saint-Esprit changer nos vies, transformer nos vies, être prêt à faire ce qu'il demande. Imaginez, vous avez un ouvrier qui vient travailler chez vous. Vous lui dites, voilà, le boulot, c'est déplacer ces chaises-là. Tu prends ces chaises-là, tu les mets là-bas. OK? Oui, chef. Tu prends tous ces rangées-là, tu les mets là-bas. Oui, oui, chef. Vous revenez, l'ouvrier, il a mis ses chaises par là. Vous lui dites quoi, vous? Hey, c'est pas ce que je te demandais, hein? Je te demandais de les mettre par là. Toi, tu les mets là-bas. Pourquoi? Par là, de ce... pourquoi? Ah, mais non, mais chef, c'est parce que moi, dans mon intelligence, dans mon expérience de 40 ans de métier d'ouvrier, je sais que scientifiquement, intellectuellement, c'est mieux de le mettre par là. Tu fais quoi avec un gars pareil? Tu dis, dehors, et que tu reviennes plus jamais. L'humilité, c'est cela. C'est pas mettre en avant nos compétences, c'est mettre en avant celles de Dieu. Deuxième point. La deuxième chose, moi je l'appelle le rejet du péché facile. Vous savez, nous les chrétiens, on a des péchés qu'on sait que c'est scandaleux. Hey, le viol, c'est scandaleux. Quoi? Il a volé dans la caisse de l'État. C'est scandaleux. Quoi? Il ne prend pas soin de sa famille. C'est scandaleux. Mais nous avons nos petits péchés. Nos petits péchés tout mignons. Que nous gardons jalousement, soigneusement, des petites râleries. Je râle tout le temps. Je râle. Il m'énerve celui-là. J'ai quoi avec sa barbe? Il m'énerve. Il a qu'à couper cette barbe-là, enfin. Vous voyez? Il y a des petites choses comme ça dans nos vies, des toutes petites choses, de rien du tout, que nous avons. Moi, je me suis découvert aussi un jour avec un petit truc que j'avais, une manie que j'avais. Je me suis dit, ouh. Mais, voilà. Chacun peut se découvrir des petites choses. Mais des choses qui ne vont pas. Il faut apprendre à rejeter le péché facile. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Juste pour donner une ligne de conduite. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mes amis, nous pouvons attrister le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a une personnalité. C'est une personne qui sait aimer, qui sait ressentir la joie et la colère. Nous pouvons l'attrister avec nos péchés. Nous pouvons l'attrister avec notre vie de désordre. Nous pouvons foutre notre partenaire dehors. Veillons sur notre vie. Faisons attention à ces péchés dont on n'est pas toujours conscient ou qu'on entretient, parfois inconsciemment, mais qu'on entretient quand même. Des petits péchés, vous savez, être au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes, pour faire des choses que parfois après on se dit, oh punaise, tous ces mots que j'ai dit, oh tous ces gestes que j'ai fait, tout ça que j'ai fait, que c'était pas nécessaire. Nous devons apprendre à rejeter le péché. Troisième chose, nous devons apprendre à entretenir notre vie spirituelle. Ça ne doit pas être de la blague, la vie d'un chrétien. Ça doit être un vrai jardin sur lequel on travaille tous les jours. Moi, j'apprends à aller dans mon jardin. Auparavant, c'était ma femme qui tondait beaucoup. Moi, je regardais. Alors, mes deux voisins des deux côtés, c'est « Gaston, tu tonds pas, c'est pas le boulot d'une femme, ça c'est le boulot d'un homme. » Et ben, moi, je peux rien, elle aime bien tondre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Et puis, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je me suis dit, mais en fin de compte, un jour, il y avait beaucoup trop de trucs et ma femme était très fatiguée ou je sais pas quoi. J'ai dit, allez, je prends la tondeuse. Et bien, depuis que je l'ai prise, je ne la lâche plus, mais je le fais maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me rends compte que c'est une activité. Et quand je vois ce jardin que je peux tondre régulièrement, se présenter, je dis, waouh, c'est beau! C'est beau, c'est propre, c'est bien, c'est chouette. Vous voyez, mais c'est le travail qu'on doit faire. On doit apprendre à s'entretenir spirituellement chaque jour. Chaque jour. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20. On peut faire énormément de commentaires sur ce petit texte, mais je vais pas faire, je vais juste qu'on le lise et je vais commenter un tout petit peu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ah, on est toujours dans le Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu ça? L'entretien. Verset 19, entretenez-vous. Comment est-ce qu'on s'entretient spirituellement? On s'entretient spirituellement par les chants. On chante à Dieu. On s'entretient par la célébration de tout notre cœur. Un cœur reconnaissant, un cœur qui a la louange à la bouche, qui vante la grandeur de Dieu. Voyez-vous? Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Être reconnaissant même pour les épreuves, même pour les choses difficiles, pour les combats. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour tout ce par quoi je passe. C'est dur, mais je te rends grâce parce que je sais que tu m'en sortiras. Tu trouveras la sortie pour moi. Je sais pas comment tu feras, mais tu me sortiras de là parce que tu es tout puissant. Il y a d'autres textes encore qu'on peut aussi présenter en ce qui concerne le fait de s'entretenir. Il y a dans Colossiens, par exemple, cette idée qu'il faut lire la parole de Dieu. Il faut que la parole habite abondamment au milieu des enfants de Dieu. Il faut faire de la parole de Dieu le guide de la vie. Il y a aussi le service chrétien, le service fraternel. Il y a aussi tout le travail en soi-même qui consiste à veiller sur notre propre marche de tous les jours. Il y a notre cœur. Vous savez, notre cœur, c'est notre allié à l'intérieur de nous. C'est notre centre de commande dans notre vie. C'est le siège de nos sentiments. C'est le siège de notre intelligence. C'est le siège de notre volonté, de notre liberté. Mais si le cœur est foutu, si le cœur est blessé, si le cœur va mal, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un volant qui commence à bloquer. On ne sait plus conduire et les risques d'accident sont là. Veillons sur notre cœur. Veillons à ne pas loger dans notre cœur n'importe quoi. Il y a des gens qui aiment bien les racontars, les médisances. Il y a des gens qui aiment bien, de temps en temps, aller embêter un peu les autres. Il y a des gens qui aiment bien regarder les choses. Et veillons sur notre cœur. Que notre cœur soit vraiment consacré à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu au service des hommes, au service de Dieu. Il vient particulariser notre relation avec Dieu. Il marche à nos côtés. Parfois, il nous porte. Parfois, il nous encourage. Parfois, il est juste à côté de nous. Parfois, il tient compte de nos limites. Il te dit, tu sais, tu peux sauter jusque-là. Ah non, 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 je ne peux pas sauter jusque-là. Tu peux sauter. Non, 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 non. Ok, ça va, ça va. Ne saute pas, laisse. Et parfois, quand je vais me surpasser, il dit, vas-y, vas-y, tu vas réussir. Et je le fais avec lui. Et je vais plus loin. Alors ce matin, la balle est dans votre camp pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec le Saint-Esprit autour de vous. Mais la prière, parfois, sert. Saint-Esprit, guide-moi, aide-moi. Fais en sorte que je sois quelqu'un qui facilite le travail, ton travail en moi. Quelqu'un qui est un bon partenaire pour toi. Enseigne-moi ces choses. On ne sait pas comment travailler avec le Saint-Esprit, mais si nous prions, nous le demandons, le Seigneur nous rend capable de vivre. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de sagesse, de force et d'amour. Demandons que véritablement il nous aide à vivre notre vie avec lui. Moi, j'aime particulièrement cette personne de Dieu. J'aime bien la personne, toutes les personnes de Dieu, bien sûr. Et je trouve qu'il est vraiment très proche des croyants, pour ceux qui désirent, en tout cas, vivre une vie de plus en plus profonde avec Dieu, une relation de plus en plus vivante avec le Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le fait qu'elle a un écho différent dans les cœurs des uns et des autres. Mais dans tous les cas, merci pour le travail que par le Saint-Esprit tu fais, pour que cette parole ne soit pas simplement une lettre morte, mais qu'elle commence à agir et à vivre dans les cœurs de chacun. Seigneur, tu dis que c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, et que les paroles que tu nous dis, Seigneur, sont esprit et vie. C'est le moment maintenant, notre Dieu, de pouvoir permettre que cela puisse être expérimenté dans chacune de nos vies. Sois béni, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.